Denis Côté est notre quatrième panéliste aujourd'hui, et non le moindre. Il a 32 ans, il a une dizaine de courts-métrages. Ah, c'est pas 32? 31, excuse-moi. 31. Il a une dizaine de courts-métrages depuis 11 ans, quand même, avec de très jolis titres. J'en nomme quelques-uns. Des tortues dans la pluie. Kosovo Love, la SPAT, vous savez pas comment ça s'écrit la SPAT, hein? L-A-S-P-H-A-2-T-E, la SPAT. Et ça a été présenté dans des dizaines de festivals locaux et internationaux. Bientôt va sortir son premier long métrage, mi-fiction, mi-documentaire, qui s'intitule Les États nordiques, qu'il a écrit, produit, réalisé. Il est, je ne sais pas s'il l'est toujours, vice-président de l'Association québécoise des critiques de cinéma depuis 2001. Et il était, et nous le pleurons déjà, jusqu'à très récemment, chef de pupitre à l'Hebdo ici à Montréal et brillant critique de cinéma depuis 1999. Désormais, on le présente comme Denis Côté, cinéaste, ce qui nous fait très plaisir aujourd'hui. Alors, Denis, toi, ça a dû résonner parce que notre petite conversation préparatoire.
Est-ce que cette question-là était enregistrée par quelqu'un?
Je pense que tout est enregistré. Marie-Hélène m'a dit ça.
Ça se lamine dessus, l'enregistrement.
Écoute, on peut parler à notre patronne.
Parfait.
Elle est pas mal collaboratrice. Denis, qu'est-ce qui t'anime, toi? Puis je disais qu'il y a un lien parce que je t'ai entendu dire qu'il fallait continuer d'être fâché. Dans une brève conversation, mais profondément, qu'est-ce qui t'anime de vouloir te lancer à corps perdu dans le beau monde du cinéma que tu connais bien?
Ben, franchement, c'est plate d'arriver de quatrième comme ça, je veux pas faire de la redite, je veux pas faire non plus la synthèse de ce qui a été dit, c'est intéressant. Pour ce qui est de la frustration, c'est pas vraiment le discours que j'ai envie de déballer aujourd'hui. Parce que peut-être après avoir entendu le CV qui vient de dérouler, on va passer dégouliner, je suis dans une période présentement un peu de délivrance. Parce que depuis tantôt, j'entends les gens parler de création et tout. Puis peut-être que c'est à cause de ma position de journaliste ou de critique au journal. J'ai comme l'impression qu'il y a trois entités, puis il y en a une qu'on oublie beaucoup. Donc, si je peux en parler, j'espère que ça va ouvrir là-dessus, c'est que je trouve que les entités création, l'entité publique et l'entité média. Et puis, il y a un artiste aujourd'hui qui a la prétention de vouloir durer, ne peut absolument pas tourner le dos à cette chose qui est absolument révoltante, qui s'appelle les médias. Donc, je ne fais pas le fâcher aujourd'hui parce que ça fait une semaine que je ne travaille plus au journal et puis je suis dans un flottement, c'est comme la délivrance de ce milieu qui est absolument... En tout cas, si on tombe dans l'anecdotique tantôt, je peux vous raconter des trucs. Surtout pour les gens de théâtre, d'ailleurs. Le cinéma, c'est encore pire. Donc, je suis dans un flottement ces jours-ci, qu'il soit créatif ou en tout cas, je suis délivré de tout ce monde-là des médias. Donc, je dirais que dans ma position de nouveau... nouvel artiste résistant, je suis très, 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 très à l'aise dans la position du résistant. Parce que si je peux revenir au discours de Martin tout à l'heure, je suis 100% d'accord avec lui, je suis très content de l'avoir entendu parce que ça fait 6 ans que j'avais pas le droit de l'écrire vraiment. Et puis là, je l'ai entendu, ça explosait, c'était de la musique à mes oreilles. Mais justement, si la société québécoise, culturellement parlant, ou en général, est si médiocre, ben ça me fait plaisir de résister. Puis c'est probablement ça qui me pousse à continuer. Et puis, prenons notre place. Si c'est si médiocre, je sais pas, Martin, si tu es d'accord, si c'est ça qui te motive à vouloir continuer à faire ce que tu fais, ben tant mieux. Si on peut trouver une place autre ou marginale dans ce décor-là, ben tant mieux. Sinon, je pourrais dire une banalité du genre, je sais pas qu'est-ce qui m'anime, si je le savais, j'arrêterais de créer, quelle belle banalité. Mais voilà, comme j'avais dit dans l'entrevue, c'est comme une façon de garder la tête hors de l'eau, c'est comme mon bulletin de vote. Enfin, le cinéma, c'est comme une façon de dire j'existe. Et puis, je suis content que les gens ici autour de la table aient touché à la question de l'égocentrisme, de l'égoïsme, parce qu'il faut. On est très, 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 très égoïste, puis il faut le dire. Et puis, les gens qui disent qu'ils font de la création sans rajouter l'idée qu'ils le font pour être aimés, ben, s'ils refusent de dire, dire ça, c'est des très grands menteurs, tant qu'à moi. On fait ça pour être aimé, se faire remarquer. Et on vit dans un... Aujourd'hui, je suis très content de commencer, M. Pilla parlait d'individualisme, puis je croyais que les gens n'arriveraient pas à... sortiraient des grands concepts de collectivité ou je ne sais pas quoi dans le beau système étatique ou je ne sais pas, mais ça revient toujours à l'idée de l'individualisme. Puis voilà.
Vous dites que vous êtes encore plus découragé du traitement que les médias donnent au cinéma et au théâtre. Qu'est-ce qui vous fait, vous, vouloir produire du cinéma qui va nécessairement être obligé de passer ou slalomer à travers les méandres que vous connaissez mieux que personne?
Ça a probablement à voir avec mes ambitions qui sont très modestes. Et puis tant mieux si je connais tous les rouages des médias, là, j'ai pu voir qui il faut appeler, quand, pourquoi et tout. Donc ça m'aide. Mais mes ambitions très modestes me permettent d'espérer monter les échelons vraiment tranquillement. Quand on parlait d'aller vers le succès, c'est pas ce que je cherche pour l'instant. Mais en vieillissant, je suis en train de découvrir l'entité publique. Et c'est absolument merveilleux de trouver un public. Quand on est jeune, là, ça fait absolument notre affaire de tourner un court-métrage à 300$ en 3 jours pour ses 13 amis, ça va, puis on se fait notre petite première, puis on se fait des tapes dans le dos, c'est correct. Là, avec le long-métrage qu'on vient tricoter avec des bouts de chandelles, j'ai découvert que c'était possiblement grand public. C'est pas moi qui décidais ça, mais j'ai fait comme « wow, c'est le fun de faire quelque chose qui rejoint des gens si on accepte de rester intègre. » Et d'ailleurs, tantôt, quand on parlait de la polyvalence, j'avais envie de dire oui à la polyvalence, non à la polyvalence si c'est pour payer son loyer. Donc, pour l'instant, j'ai jamais vécu la situation du pigiste, la situation de l'artiste qui essaie de survivre, puis l'artiste qui... J'ai toujours eu des emplois qui me faisaient graviter autour du milieu artistique sans avoir la... Donc, je peux pas parler de sentiments, de malaise, puis de révolte, puis comment payer mon loyer, puis courir après des contrats et tout, c'est quelque chose que je connais pas. Donc, c'est le discours de l'artiste qui souffre, je le connais pas. J'ai pas d'opinion sur ce discours-là, mais je le connais pas.
Mais quand vous parlez d'ambition modeste...
Je parle beaucoup, puis c'est pas toujours cohérent.
Je te ramène doucement. Parler d'ambition modeste, est-ce que ça veut dire... Bon, du jour au lendemain, j'ai pas nécessairement envie que mon film soit à la télévision devant, je sais pas, 100 000 personnes, mais qu'il ait une belle carrière dans plusieurs festivals avec des gens qui sont ravis de le découvrir. C'est un salaire.
Tout dépend de la définition de carrière qu'on a pour un court-métrage ou un film.
Mais là, c'est un long métrage.
J'ai un long métrage tourné avec 75 000 $. La belle carrière de ce film-là, c'est combien de festivals? 6 ou 7 festivals internationaux, 2-3 au Québec, puis 2 semaines excentrices, puis je suis à terre, le ventre en l'air, je m'en vais. Si j'avais fait un 2 millions, puis j'avais des comptes à rendre et tout, parce que c'était complètement différent, mais c'est la question des ambitions qui se pose, puis les miennes, ils restent modestes, mais je trouve qu'à chaque fois, jeune, puis ce que je fais, je sais que je pourrais pas atteindre. Les gens à 31 ans qui ont déjà fait leur troisième long métrage sont connus partout. Bon, vous avez vu mon film, vous savez que c'est tranquille. C'est tranquille.
Un beau film. J'espère que votre excentrice. Est-ce que je vous coupe la parole si je passe à la salle? Ça va?
Je vais gérer en temps et lieu.
Ça me ferait plaisir. Alors, il y a plusieurs personnes en liste qui attendent, qui prétiquent, qui demandent est-ce que c'est mon tour. Je pense que on pourrait demander à Olivier Choinière, qu'on m'a dit qu'il était arrivé. Olivier, où êtes-vous? Bonjour. On m'a dit que vous aviez envie de nous faire entendre un extrait sonore de promenade déambulatoire. Et peut-être allez-vous nous dire avant qu'est-ce qui vous motive, vous, dans la vie et dans l'art, surtout?
Qui vous a dit que c'était une promenade déambulatoire?
Moi, je passe les informations que je reçois. Je ne donne pas mes sources tout le
temps. Non, mais en fait, j'ai préparé une courte pièce sonore uniquement
pour nous?
Pour la journée. Aujourd'hui.
Qu'est-ce qu'on est content?
On est très content. Je suis désolé d'arriver ça maintenant parce que je suis retourné de 10 jours à Rouen. Et Rouen, c'est loin. Dans le cadre d'un événement qui s'appelle Trafic, où j'ai fait une intervention à l'espace public, justement avec l'archétype de Superman. Mais mon Superman à moi était tombé du ciel et bougeait plus sur quoi la route. Sinon, on peut juste présenter peut-être la pièce sonore que j'ai préparée. Pour moi, j'ai pris cette question-là, qu'est-ce qui vous anime, comme un exercice de franchise. Et bref, ça aurait été hypocrite de ne pas nommer cette chose-là. Alors.
Maestro.
Non.
C'est une
Ok, je crois qu'on va faire.
Tu dois avoir un bon matelas.
Avez-vous quelque chose à ajouter?
Non.
Merci beaucoup. Je vais demander maintenant à Geneviève Blais si elle veut poursuivre sur cette lancée, sur cette chevauchée. Geneviève Blais est metteur en scène et je crois qu'elle a préparé un petit texte. Non, pas du tout, elle fait du... Elle nous parle.
Ça devait être un ad-lib, mais après ça, j'ai besoin de bout de papier. Donc, c'est ça. Ben, en fait, j'avais simplement envie de vous dire, moi, ce qui m'anime, puis je pense qu'en voyant tout à l'heure le petit chandail de Superman, c'est le désir d'avoir des aventures complètement folles. Et puis, c'est seulement au théâtre que j'ai trouvé ça, de partir à l'aventure, d'aller dans des lieux non théâtraux et de créer des spectacles envers, contre tous, avec des moyens complètement dérisoires et de passer des moments complètement fous. C'est, je pense, une des choses qui me stimule le plus. Puis également, la rencontre. Je suis un peu anachronique. J'aime les rencontres lentes. J'aime avoir la chance d'apprivoiser les gens avec qui je travaille et de pouvoir m'abandonner, leur dire véritablement ce qui me fait peur, confronter ces peurs-là à travers les processus de création. Et donc, c'est ce qui me donne envie de créer et de partager avec eux. Et puis, c'est une envie qui se renouvelle sans cesse. Donc, simplement.
Merci beaucoup. La voix d'une autre jeune femme, Julie André-Thé, qui est une performeuse, qui a notamment contribué à 100 rencontres. Bonjour.
Bien au froid.
Dans le froid d'un cube de glace.
En fait, j'entendais plus te parler, tout d'un coup, ça me gêne. Sauf que j'ai des choses à dire, malheureusement. Moi, ce qui m'anime, en fait, c'est... je fais la performance et aussi l'installation. C'est vraiment les deux disciplines dans lesquelles j'ai décidé de m'engager. Quand je dis m'engager, pour moi, ça veut dire s'engager dans le réel. Regarder autour de moi, regarder c'est quoi le contexte, s'engager dans le contexte autant culturel, social que politique. Ça ne veut pas dire que j'ai des grands discours politiques à faire, mais c'est m'engager dans ce que ça veut dire être un être humain aujourd'hui. En voyageant beaucoup, en fait, ça m'a beaucoup questionné, m'a fait questionner aussi qu'est-ce que j'ai à dire comme artiste si je m'en vais à Cuba, qu'est-ce que j'ai à dire comme artiste si je m'en vais à Bogota, alors que les situations politiques sont souvent très critiques et très différentes de la nôtre. En posant ces questions-là, je me suis dit, mais c'est quoi ma responsabilité comme artiste? Oui, ça m'intéresse d'aller présenter mon travail à l'étranger parce que quelque part, je veux dire quelque chose. Mais c'est quoi qui, comment je peux, c'est quoi ma responsabilité, donc qu'est-ce que je peux, qu'est-ce que j'ai à dire à ces gens-là? C'est assez prétentieux peut-être et aussi utopique, mais je crois qu'à la base il y a un langage qui est universel parce qu'on est tous des humains. On vient tous de la même place et puis c'est là où ma recherche se situe en fait, même si c'est souvent peut-être des échecs, c'est quand même vers ça que je parle et que je crois aussi parce que oui, je suis québécoise, mais je suis à la base un être humain puis je pense qu'il y a un langage qu'on peut partager avec les autres.
Pourquoi vous parlez d'échecs? Même si ce sont des
échecs. Ben, en fait, parce que bon, si on voyage à l'étranger, par exemple, on peut toujours apprendre quelque chose de cette culture-là, mais on sait toujours un minimum de choses. Puis on essaie, mais aussi, il faut se permettre d'accepter les échecs et aussi les réussites, évidemment. Mais je pense que de trouver un langage pour moi, faire de l'art, c'est une recherche. Et puis, c'est cette liberté-là que je me donne de faire de la recherche puis de proposer des questions et peut-être des pseudo-solutions, mais aussi je pense que, bon, c'est de s'engager, je dirais, politiquement, mais aussi poétiquement. Je pense qu'il y a ce langage qu'on peut trouver d'une manière politique qui parle, qui dit, qui s'engage justement dans ce contexte-là. Moi, j'avais pris plein de notes, mais... Puis aussi, je pense que ce qui me motive à créer, c'est le désir de dire. Le désir de, contrairement à... je pense que l'inspiration vient peut-être de choses personnelles, mais pour moi, le challenge, c'est de transcender ça et puis de le transformer en quelque chose qui est ouvert. Et puis, je crois que je fais de l'art pour les autres, pas pour plaire, mais pour dire quelque chose. J'aime donner, puis en même temps, j'aime être exigeante. Et j'aime qu'on soit exigeante. Si je suis un public, j'aime qu'on soit exigeante avec moi. Je veux pas être assise sur une chaise, puis qu'on barre un wagon, n'importe quoi. Donc, je suis exigeante à ce que j'offre, puis je veux aussi qu'on soit exigeant envers moi. Et je pense que comme public, on doit aussi avoir une responsabilité. Autant comme artiste, on a une responsabilité. Et voilà. Blablabla. Merci.
Merci. Est-ce que je peux demander aux gens du panel s'ils veulent réagir à une des deux choses dont elle vient de parler, l'exigence et aussi, d'une certaine manière, l'exigence qu'elle exprime en face de son propre travail, mais aussi elle reconnaît que le public devrait être exigeant. Et l'autre partie qui est son engagement, l'engagement poétique ou politique, est-ce que vous avez des réflexions là-dessus l'un ou l'autre?
Je pense que l'un va avec l'autre. C'est-à-dire, oui, on est exigeant avec nous-mêmes, les artistes, parce qu'on veut vraiment aller au bout de quelque chose ou aller au bout de l'inconnu. Je pense que chaque nouveau projet est un défi lancé à l'inconnu. Et comment éclairer l'inconnu, comment cheminer à travers l'inconnu. Et donc, c'est pas arrivé au résultat, c'est vraiment le processus, habiter cet espace-là et qu'est-ce qui se passera bien après la durée du projet, un mois, deux mois, trois mois. Et je pense que, enfin, moi, tous les artistes que je rencontre, c'est vraiment un pari avec eux-mêmes, avec l'exigence qui est lancée. Et j'aime beaucoup donc ce que Julien-André dit par rapport à ça, il faut que le spectateur aussi soit exigeant. Et je pense qu'il y a eu comme une espèce, je sais pas où, mais une perte par rapport à l'exigence parce que il y avait une critique à la télé il y a peut-être une semaine par rapport aux 3 heures de Wajdi, qu'on disait quand même ça dure 2h30 et c'est quand même du Tchekhov. Là, je dis, mais c'est le même Tchekhov qu'il y a 100 ans, qu'est-ce qui fait que soudainement l'être humain serait moins patient, serait moins intelligent, serait moins passionné pour voir c'est quoi cette. Donc, le degré d'exigence, c'est quoi? L'engagement poétique, c'est magnifique. C'est vraiment s'asseoir face à une œuvre qui est autre et sans avoir d'a priori dire qu'est-ce qui se passe devant moi. Et pour moi, l'art, c'est vraiment ça. Être confronté à des énigmes, confronté à des masses qui sont denses, qui sont autres que ce que je connais, et de faire en sorte que ça trouve un écho, soit émotif ou intellectuel. On ne sait plus regarder et voir une toile abstraite, voir un film de Tarkovsky, voir une femme brodée de robe de papier, c'est quoi? Est-ce qu'il y a une clé au bout? Non. Il y a un écho à l'intérieur de nous-mêmes. Et l'exigence, elle est là. L'exigence, c'est de ne pas avoir 100% dans son bulletin scolaire. C'est de dire, je ne sais pas, je suis confronté, et peut-être que dans une semaine, un an, 3 ans, j'aurai quelque chose de plus à l'intérieur de moi-même, et j'aurai voyagé avec ça. L'exigence, elle est là. De composer avec la part d'inconnu supplémentaire que la fréquentation de l'œuvre d'art va nous apporter. Et ça, c'est pour moi primordial. Et on n'est que dans un rapport une étoile, deux étoiles, trois étoiles, quatre étoiles. Ça ne vaut pas la peine de vous déplacer pas, film plat, chorégraphie obscure. La vie est obscure. Et donc, j'allais voir donc, le sans rencontre hier, et dans un premier temps, pour moi, sans rencontre, c'est une grosse tombola culturelle. Je sais que c'est ça, on se promène. J'avais vraiment un réflexe de Walmart. Comme il y avait des kiosques. Et je suis resté jusqu'à la toute fin de l'événement. Et à un moment donné, il y a comme une barrière qui est tombée. Et j'ai commencé à avoir un rapport au temps très, très, très différent à mon entrée. Et soudainement, autant les gens qui étaient dans les espaces de performance que mon voisin devenait, pour moi, une source d'interrogation sur l'être humain est qui, est quoi, est constitué de quoi. Et là, soudainement, cette rencontre-là, oui, m'a obligé à défaire un rapport à l'efficacité de spectateur culturel. Et là, soudainement, j'avais plus aucune référence, c'était fantastique. Et à la toute fin, il y avait une traversée faite par Renaud Lachambre dans l'espace qui faisait que, mais qu'est-ce qu'il traverse? Il traversait moi aussi. Et j'étais très bousculé par ça. Comme le parcours sur la rue Ontario, le parcours, je ne sais plus si c'était comme moi ou ça. C'était tellement confrontant par rapport à une réalité qu'on ne connaît pas, mais soudainement, les barrières tombaient. Et c'est, l'exigence était là. Comme spectateur, j'ai fait comme, je rentre dans une réalité horrible. La prostitution, la toxicomanie, une zone sociale hyper dure à vivre. Et là, soudainement, comme spectateur, j'avais à entrer dans une fiction qui frôle avec la réalité. Et cette exigence-là, j'étais content de la voir. Je ne le ferai pas. J'étais vraiment assez traumatisé par l'expérience. Mais là, soudainement, l'art m'a apporté quelque chose. Donc, soyons exigeants et ne lâchons pas ça. Et l'exigence, c'est avoir du temps de travail. Et c'est là que la polyvalence, ça me heurte un peu. Oui, polyvalence, pour s'ouvrir à tout, pas de problème. Mais si c'est pour s'éparpiller, et qu'on est en train de s'éparpiller, écrire une pièce, c'est long. Je ne peux pas écrire une pièce et quatre épisodes de téléroman en même temps. Mm-hmm. Je ne peux pas monter trois affaires en même temps. Il y a des affaires que je peux, mais pas tout le temps. Donc, soyons exigeants avec nous-mêmes. Mais il faut que la société comprenne c'est quoi l'exigence.
Oui, vous avez bien raison. Si je peux me permettre, ce matin, il y a une belle expression qui a été donnée par Patrick Lemauve, qui est un homme de théâtre français qui était assis ici, et qui parlait de cette possibilité que donne l'art de nous offrir un temps d'attention. Un temps d'attention par opposition à un temps de circulation qui est toujours de plus en plus effréné, alors que la pratique ou la confrontation ou le plaisir d'être devant des œuvres d'art et du théâtre particulièrement nous offre un temps d'attention. Et je trouvais que c'était une expression qui était tellement belle. Voilà, je voulais la partager avec vous. D'autres réactions, Denis? Chantez!
Oui. Non, c'est parce que les gens qui parlent souvent viennent du milieu théâtral, la création littéraire, la danse. J'ai comme envie de dire que vous pouvez encore vous permettre de parler d'art. Vous pouvez encore vous permettre de demander au public d'être exigeant. Puis je pense qu'on peut même plus demander ça du cinéma. Puis oui pour l'investissement poétique, oui pour l'exigence, mais quand vient le temps d'écrire pour le cinéma, je peux être exigeant comme je veux, je peux écrire la poésie comme je veux, la première porte que je vais rencontrer, j'aurais même pas encore rencontré une personne du public, je vais la rencontrer à la SADEC, je vais la rencontrer dans les institutions. Et puis, j'ai comme envie de commenter sur tout ça, toute l'exigence de la poésie, c'est bien beau, mais le cinéma, même si c'est l'art le plus bonbon, l'art le plus populaire, ben, je peux même plus utiliser le mot d'art. Donc c'est presque difficile de commenter tout ce que vous dites là, puis j'ai presque envie de vous crier que vous êtes encore un peu chanceux. Parce que si on peut parler du cinéma québécois, je ne sais pas s'il y a encore des gens qui ont envie de se lever ici et crier que le cinéma québécois est autant en santé que tout ce qu'on en dit. Mais j'aimerais beaucoup ça développer un discours sur l'exigence, la poésie dans l'art cinématographique, mais ça a quand même plus sa place aujourd'hui, maintenant, à Montréal. Puis c'est magnifique de vous écouter.
Est-ce qu'il y a quelqu'un au cinéma dans la salle qui voudrait faire un boulinage là-dessus? Non?
Je peux juste ajouter une petite affaire par rapport à la poésie et le cinéma. Cet été, j'ai donc joué Chinatown de Polanski, que j'avais jamais vu. Et vraiment, c'est un film magistral. Puis à la fin, il y avait donc des interviews dans le DVD. Puis Polanski disait, bon ben, je suis persuadé que maintenant, je ne pourrais plus faire ce film-là, que les producteurs diraient que le public ne serait pas capable de suivre le film, et ça serait trop cher par rapport à ce que ça rapporterait. Et c'est vrai que ce qui est une tristesse incroyable, à se rendre compte qu'en 2005, il y a des choses qui dorénavant ne se feront plus. Et j'ai peur que ça arrive aussi sur des choses en danse et des choses en théâtre. Il y a un rapport d'efficacité tangent qui coupe la moitié de la programmation, c'est horrible. Il y avait une place où il y avait une espèce de liberté anarchique qui s'exprimait semaine après semaine, et là on vient de régulariser quelque chose qui, où l'inattendu et le spontané avaient encore une place complètement libre. Et on est dans un harnachement comptable, d'un flot d'énergie qui ne doit pas être harnaché.
Mais je pense qu'on peut. Ben oui, mais je pense aussi qu'il ne faut jamais oublier que les artistes ont un pouvoir. et on n'est pas des victimes.
Mais
et, non, oui. Ce que je veux dire, c'est que on, oui, c'est dur, on doit fonctionner avec ce qui est là. Mais ce qui est là, souvent, quand tu parles avec des agents du gouvernement et tout, ils disent, ben, c'est vous autres, vous devez nous dire qu'est-ce que vous voulez. À un moment donné, il faut aussi avoir le guts de dire, ben, c'est comme ça que je veux le faire. Ça va prendre plus de temps, par contre, il faut être patient. Je dis pas qu'il y a rien à faire, mais ce que je veux dire, c'est que je veux pas tomber dans un discours de victime. Je pense que l'artiste a beaucoup plus de pouvoir qu'il pense pour changer aussi le mode de production. Moi, je pense qu'en cinéma, c'est vraiment pas facile, c'est une industrie, le cinéma, mais il y a quand même des gens, des fous, je disais encore, les Cavaliers, qui a fait un film qui s'appelle Le Filmeur, qui a pris 10 ans de sa vie pour... Il y en a des gens. Bresson, il n'a pas fait 50 films dans sa vie. Il en a fait quelques-uns. C'est un cinéma qui est complètement personnel, singulier, atypique. J'ai pas de son à donner aux gens au cinéma, c'est clair, mais il y a une chose. Moi, par exemple, en cinéma, ce qui m'intéresse, c'est souvent ces gens-là. C'est les gens qui ont Godard, Bresson, des gens qui...
On parle de Français qui ont travaillé des années.
Oui, oui mais je pense que c'est encore possible.
Oui, mais à quel prix est-ce que c'est au prix d'une pauvreté chronique et d'une marge absolue? C'est là ma grande
crainte. Oui, je comprends. Je pense que j'ai aussi peur de vous là-dessus, mais je pense qu'il ne faut pas abandonner le pouvoir qu'on a, le pouvoir de création existe. Mm-hmm. Moi, c'est toujours là où je vais, c'est-à-dire qu'il y a des alternatives. Il faut les prendre. C'est plus long, mais il faut le prendre, son pouvoir aussi.
Je vous donne la parole rapidement et après je demande à Yves Sioui Durand, qui a préparé aussi quelque chose autour du thème qui nous habite. Allez-y, Émile.
Ben,
peut-être
fort, parce que. Ouais, je ne veux pas faire de l'optimisme bon marché, parce que je sais que ça, c'est
mal.
Oui. Puis en même temps, il ne faut pas non plus faire croire que tout va. Pour le mieux, étant étudiant, je suis peut-être encore illusionné, quoique. J'ai vu que sur une carte postale, en tout cas, une citation de Sophocle, qui a un peu d'âge quand même, qui disait le théâtre est mort. Alors, il me dit que, bon, je ne sais pas s'il serait d'accord avec sa phrase s'il revenait aujourd'hui, mais il me dit probablement qu'il y a des choses cycliques ou que si on a traversé ou à se fracasser contre le mur du commerce, à un moment donné, le mur va céder aussi, puis il y a l'instinct de survie peut être là. Vous parlez de vos étudiants qui n'osaient pas appeler pour des stages. Je ne sais pas qui sortaient, qui se retrouvaient en état d'attente ou qui avaient l'impression qu'on leur avait vendu un rêve pendant leurs études, puis d'un coup ils se retrouvent dehors à servir des bières. Puis là, entre conflit éthique, moi comme comédien, est-ce que je fais une pub de bière ou je vais en servir? Je ne sais pas. Des fois c'est un choix à faire, mais je me dis vraiment que. Il y a vraiment un instinct de boy scout, de guide de survie dans l'ensemble du monde qui peut, je ne sais pas comment on peut faire pour... Moi, j'ai l'impression que si les gens sont moins exigeants, c'est peut-être parce qu'il y a une mission de développement d'éducation publique à faire. Puis la question a été posée ce matin, savoir si on devait éduquer le public, et quelqu'un a dit non, c'est pas du tout mon rôle d'éduquer le public. Je pense pas que c'est la fonction première d'un artiste, mais en même temps, je me dis que si on se retrouve dans le monde dans lequel on vit, qui est effréné, qui est surfilmé, etc., puis si on se dit que dans chaque œuvre qu'on fait, qu'il y a une volonté de tendre la main et en même temps de provoquer des initiatives de réflexion chez les gens, peut-être qu'il y a un travail sur ce côté-là à faire. C'est-à-dire que moi, je pense que l'art va se perdre si l'artiste a un réflexe d'envoyer chez le public constamment. Mais pendant que le public va le sentir, on ne fasse pas l'erreur, on va aller manger une poussine et je m'en fous. T'sais. Mais je me dis que si. Sans doute que tout le monde a une tentative d'aller rejoindre les gens et les amener à comprendre ce qu'ils font. Mais je pense qu'il faut se servir des armes qu'on a, et sont des armes de l'ennemi, pour l'ennemi étant l'ignorance et le commerce, etc. Peut-être pour aller transformer le regard des gens, parce que je pense que, en fait, l'espoir aussi, je suis jeune encore.
Moi,
je trouve qu'il y a
beaucoup, beaucoup d'espoir. Je trouve
qu'il y a
beaucoup, beaucoup d'espoir quand on regarde le public. Hein. Du tout à blâmer dans
rien
de ce qu'on
se rencontre aujourd'hui. Non, désespoir est dans les médias. C'est les médias.
Voilà, sur le public et nous, il y a beaucoup de pessimisme. Il y a beaucoup d'obscurité, de ténèbres. Mais quand on arrive à jusqu'au spectateur et jusqu'au public, c'est, ben voilà, on arrêterait tous si on n'arrivait pas, si on ne le voyait pas de temps en temps, cette chanson-là.
Moi, le public, je suis le public depuis une semaine, puis je tourne les pages, puis je cherche du pain, des jeux. Puis je vois qu'est-ce qu'il y a quand je tourne les pages, puis j'ai travaillé là-dedans, puis je sais où est le blanc. On n'a pas besoin d'en discuter des heures. Mais...
Ça vous brûle les lèvres de nous dire deux ou trois choses?
Non, 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 c'est pas une anecdote, là.
Non, non,
mais je ne pas oublier le rôle que les médias ont entre. C'est le vecteur entre la création et le public, puis c'est presque le seul. Puis si lui est gangréné partout, ben, si on n'en parle pas, on fait seulement qu'est-ce qui vous anime les créateurs et qu'est-ce que le public cherche, ben, pour rejoindre les deux, c'est dans le milieu. Donc, il faut voir qui fait son travail comment entre les deux pour que l'élément X rejoigne l'élément Y.
Mais il n'y a personne dans cette salle qui n'est pas au courant que le public et les médias sont des intermédiaires assez incontournables pour se rendre au public à notre époque. Ça ne veut pas dire qu'ils sont les seuls, mais ils sont assez incontournables. Ils prennent une place démesurée et ils ont des règles obscures. Si vous aviez à les résumer en 2-3 minutes, ce serait quoi? Qu'est-ce que vous vouliez dire tout à l'heure aux gens de théâtre en disant qu'il faudrait que le monde de théâtre sache ça?
Ben, c'est surtout les jeux de coulisses. Un créateur de théâtre avec toutes les bonnes intentions qu'il a, comment est-il entouré? Est-ce qu'il connaît son attaché de presse? Jusqu'à quel point il pense que son attaché de presse est puissant? Est-ce qu'il pense que seulement son talent va lui permettre d'avoir une pleine page dans un journal? Est-ce qu'il s'intéresse à ces questions-là? Est-ce qu'il... Des histoires de « ce théâtre-là achète la pub d'un journal, donc on va le couvrir », c'est à chaque semaine. Et le créateur n'a rien à dire là-dedans. S'il n'est pas couvert dans tel journal, il va se poser la question toute la semaine, mais il ne saura pas que c'est parce que son théâtre ou sa pièce est jouée n'achète pas dans tel journal, donc il est barré, que sa pièce soit bonne ou pas bonne. Je le vivais à chaque semaine dans les réunions de rédaction. Bon, j'étais pour un petit journal où on n'avait pas beaucoup d'espace, contrairement à un compétiteur qui, lui, pouvait couvrir absolument tout. Nous, il fallait faire des choix. Donc, quand on finissait par être déchiré, puis je travaillais pour Dieu, en haut, là, puis eux, ils nous disaient « Bon, tel théâtre achète dans le journal, tu couvres sa pièce. » Puis on n'avait rien à dire. C'est tout le temps des jeux de coulisses comme ça, sans rien rentrer dans des détails, mais il ne faut pas oublier ça. T'sais, même si on a plein de bonnes intentions comme créateur, il faut connaître les gens qui nous entourent.
Mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'illusions dans cette salle par rapport aux médias, à moins que je me trompe.
Merci.
Moi, j'ajouterais encore, pour ça, je gagne ma vie dans un
métier. Oui, ben, vous savez, je suis journaliste de formation.
Oui, oui. j'ai certainement pas dit le contraire de ce que je disais. Mais il y a quelque chose aussi qui est international, que je vais parler plus fort. Quelque chose qui est un peu international, par exemple, dans le journal Le Monde. Le jour où M. Lepasse a quitté, on ne l'a pas remplacé. On n'a pas remplacé l'espace qu'il avait dans le journal, c'est-à-dire à peu près 8 feuillets chaque semaine. Donc, tous les autres journalistes se rabattent aux 4 feuillets. Là, on est au Monde. Si le Monde est rendu, pour le Monde des livres, pour le journal intellectuel, est rendu à 4 feuillets, par papier, on fait dur. Qu'est-ce qu'on peut espérer ici? Il y a des outils chez les journalistes, vous les connaissez, qui s'appellent un outil comme Eureka, on peut calculer le nombre de caractères. Donc, peu importe l'espace que le journal semble donner, la presse, le voir, tout ça, la foule, tout ça, le nombre de caractères est dramatiquement en baisse depuis quelques années, dû à la publicité, en gros. Ça, c'est une chose qui est, on est pris avec ça, puis on pourrait peut-être faire quelque chose, tout le monde. Ça, c'est une chose. Mais il y a une autre affaire aussi, une tendance, je trouve que le média qui devrait être une courroie de transmission, un pont, et de moins en moins un pont ou une courroie de transmission, il ramène de plus en plus vers lui. Il devient un acteur de tout ça. Je vois régulièrement des collègues, des journalistes qui se mettent en place pour plus des trois quarts, plus d'un article, excusez-moi, mais je trouve ça épouvantable. Quand on sait qu'on a 1,5 feuillet pour parler d'une œuvre qui a pris un an à faire, et que ce journaliste-là parle de son nombril, je ne sais pas quoi, pendant à peu près deux. J'en ai à vous, mais.
Non, mais ça revient à l'idée de qu'est-ce qu'un critique, comment il doit
écrire. Oui, mais moi, je ne parle même pas de la facture. J'ai accepté les impératifs de mon journal, je les ai refusés quand j'étais à la presse autrefois. Aujourd'hui, j'ai accepté de naviguer dans ça. Ça, c'est une chose. Je parle juste de se mettre en place comme ça et que la transmission devienne plus importante. Que l'œuvre, le public, que la courroie soit une affaire, une œuvre en soi, ça devient bien très agaçant.
Parce qu'on est dans une société qui valorise le journalisme d'humeur et
ce genre de choses. C'est ça, c'est ce que je veux dire. Oui, bien sûr. C'est pas la facture qui décide quelque chose de populaire. Ou de... C'est pas de ça que je parle.
J'imagine qu'on va finir par entendre cet homme. C'est pas parce que c'est plate, vraiment pas, mais il faut pas oublier personne. Yves Sioui Durand, vous avez préparé quelque chose. Yves Sioui Durand, donc, directeur artistique depuis de nombreuses années du théâtre Ondinoc.
Oui, est-ce que je suis le dernier?
Je pense que vous êtes l'avant-dernier.
OK. Alors, quel crève les artistes? Je suis dans le milieu artistique depuis 35 ans. Je suis venu au théâtre par ma rencontre avec la mise en scène Jean-Pierre Onfort des Arranchons Verts de Christophe Poète pour Claude Gauvreau. 20 ans plus tard, en 91, celui-ci montait la conquête de Mexico que j'ai écrit et qui fut un moment de théâtre profond et extrêmement important. C'était juste après la crise d'Oka et avant les célébrations du 500e anniversaire de la découverte d'Amérique. D'où vient la fracture avec les peuples autochtones? Qu'ils créent les artistes. Quoi qu'il en soit, chez Ondinoc, nous avons eu une démarche artistique exemplaire, intègre, qui proposait une éthique, un regard. Plusieurs réussites artistiques jalonnent ce parcours, cet engagement. Depuis 1985, année de la fondation de la compagnie Ondinoc, et une année de notre participation au premier festival du théâtre des Amériques, beaucoup de changements se sont opérés dans le monde du théâtre au Québec. Il faut être fort pour maintenir, en dépit de tout, une véritable intégrité artistique et ne pas succomber au clonage des styles, des approches et des esthétiques. Le marché récuse toute considération morale, traditionnelle, transcendante, culturelle, environnementale, qui pourrait faire entrave à la libre circulation de la marchandise à travers le monde. C'est pourquoi le nouveau capitalisme cherche à démanteler toute valeur symbolique au profit de la seule valeur monétaire neutre de la marchandise. Puisqu'il n'y a qu'un ensemble de produits qui s'échangent à leur stricte valeur marchande, les hommes doivent se débarrasser de toutes ces surcharges symboliques et culturelles qui garantissaient leurs échanges. Déchus de la faculté de juger, poussés à jouir sans désirer, formés à toutes les fluctuations identitaires, reconfigurations des esprits qu'ils créent les artistes. Aussi, je n'irai pas par quatre chemins. Elle meurt, cette compagnie, la seule compagnie de théâtre amérindien du Québec. Le Conseil des arts et des lettres du Québec l'assassine, l'exclut, la renvoie à la marge des réserves, au limbe. La pensée coloniale de supériorité culturelle, d'assimilation, entre l'institution, il lui est impossible de reconnaître la spécificité culturelle des Autochtones du Québec. Contrairement au Conseil des arts du Canada, au Conseil des arts de l'Ontario, du Manitoba, de la Saskatchewan, le CAD, au cours des 20 dernières années, n'a jamais consulté les artistes autochtones seniors du Québec, et ce, malgré la Commission royale d'enquête du Canada et la décennie des peuples autochtones décrétée par l'UNESCO pour définir ou amender les critères discriminatoires de ces programmes, afin de les adapter aux réalités spécifiques des nations autochtones du Québec, qu'ils créent les artistes. Le droit à la culture, à sa culture, à celle des autres, est un droit fondamental reconnu universellement par la Charte des droits de l'homme. Où sont les acteurs, les metteurs en scène, les écrivains, les chorégraphes amérindiens du Québec? Où sont-ils? Au cours des 20 dernières années, les émergences ont été rares. Aujourd'hui, il y a plus de 310 compagnies francophones professionnelles au Canada, pour une seule compagnie de théâtre amérindien francophone en Amérique du Nord. Nous ne satisferons jamais les obligations du commerce de l'art qu'ils créent les artistes. Eh bien oui, ils créent, épuisés, isolés, sans ressources, et parfois ils en meurent. La compagnie Ondinoc se meurt parce qu'elle n'a pas les ressources nécessaires pour maintenir ses rêves et elle ne peut réaliser davantage, être autrement dans la différence. C'est la volonté productiviste qui remplace la quête artistique, la recherche et sa profondeur. Le monde du spectacle, véritable galaxie parallèle, devient plus importante que la vie elle-même. L'image au lieu du réel, la pornographie du végétariat au lieu du questionnement, de la réflexion. La solitude la plus égoïste au lieu de l'aventure humaine. On m'annonce, donc je suis. Qu'ils crèvent les artistes. Qu'est-ce que ma déchéance auprès de la stupeur qui vous attend? Disait Arthur Rimbaud. Au même moment où toutes les sonnettes d'alarme écologique retentissent et annoncent la catastrophe, au moment même du sacrifice immédiat de la nature et des animaux, qu'ils crèvent les artistes. à ce moment inconcevable où l'espèce humaine va pouvoir intervenir dans son propre devenir en se substituant aux lois de l'évolution par la manipulation génétique, par le background diffus d'une post-humanité, au moment même où l'homme apparaîtra dénaturé dans un monde vidé des animaux sauvages, au moment où les derniers peuples nomades de la Terre auront été assimilés, au moment où il n'y aura plus que des hommes mégalopoliques, des hommes marchandises, des artistes se seront tués. Le théâtre peut-il encore sortir de ses temps ou n'est-il que le privilège d'une élite? Piège du consentement à une société devenue aveugle et criminelle, esthétique de la perfection devant le mensonge de l'impuissance qui paralyse toutes les énergies. Le théâtre est-il le visage caché, maquillé par le phare du bien-être, de faire plus, du plus rentable, amuser, distraire, collaborer à la catastrophe imminente? Qu'il crève les artistes. Que sommes-nous devenus? Que nous arrive-t-il? L'art comme révolte, comme devoir de refus, comme dénonciation de la mort. L'institution pourvoyeuse qui materne et nourrit les becs affamés de ces créatures au cœur d'une saine compétition et le consentement des artistes, cela s'appelle aujourd'hui dépendance et docilité. Désincarner le rêve et la révolte les rend inopérants ou simplement récréatifs. Que des traces, des reliques, comme si les langues s'étaient brisées, comme si les mots rêve et liberté étaient d'une langue morte. Cette flamme qui devait incendier le monde, vacille, fragile, rare, de plus en plus rare, qui crève les artistes. Il y a 20 ans ici, au premier FTA, je créais le porteur des peines du monde, sur un terrain vague tout près d'ici, entre les rues Bleury et Maisonneuve. C'était le début fulgurant du théâtre amérindien au Québec. J'en étais le pionnier. Tout mon parcours fut un acte de résistance culturelle. Au nom de la vie, et non au nom de la loi, je me fais déserteur, subversif. Pour mieux résister, je prends le maquis. Je fais comme le loup pris au piège. Je me coupe la patte et je cours encore, j'espère courir encore, libre. Et avant de partir, laissez-moi vous citer cette phrase magnifique d'André Breton qui parle de disposer de nous et de nous faire contribuer à l'abominable confort terrestre.
Non, enfin que vous êtes obligé de mettre la clé dans la porte. Ah oui. Je vous voyais sourciller en écoutant notre ami Yves Sylvie Durand. Quelles sont vos réflexions là-dessus?
J'avais envie de dire que en vous écoutant, je me sentais. Je me sentais pour la première fois concerné depuis que le débat a commencé. Parce que tout ce qu'on a dit auparavant, je suis absolument d'accord avec tout le monde. Et j'avais le sentiment quand même d'une, malgré les dénonciations publiques, d'un consensus, d'une société riche, on l'a dit, qui, comme on l'a vu en France il n'y a pas longtemps avec les intermittents, se plaît à juste titre. De crever la misère, mais on est quand même dans un espace de richesse. Je fais partie de cet espace-là, j'en suis un pur produit, donc je l'assume, c'est pour ça que je me reconnaissais dans ce qui a été dit jusqu'à présent, mais avec votre parole, j'ai d'un seul coup touché du doigt l'océan qui sépare les pays riches, les artistes qui crèvent dans les pays riches et les artistes qui crèvent dans les pays pauvres. Et mon parcours de professionnel du ministère des Affaires étrangères m'a mené dans différents pays pauvres, en Guinée équatoriale, au Cameroun, au Mexique, dans une région pauvre du Mexique, San Cristobal de las Casas, et dans les Antilles, d'abord dans une Antille pauvre qu'est la Dominique, puis dans une Antille riche maintenant qu'est la Martinique. Et tout ce que vous avez dit m'a profondément touché parce que c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que la France métropolitaine, avec ses ex-colonies en Afrique ou avec ses départements français d'outre-mer, comme que sont la Martinique, a cette même attitude-là, exactement la même attitude. Et c'est C'est peine que de le dire, mais c'est terrible pour les artistes dans ces pays-là. Ils n'ont pas le choix. C'est où on entre dans un formatage. Mais à force de vouloir se formater au goût ambiant, on se perd. Parce qu'on préférera toujours l'original à la copie. Où il crève, mais au sens physique du terme, on n'est pas dans une image, une métaphore. On a des centaines d'artistes qui ont laissé tomber, comme monsieur vient de le dire, ce métier-là, parce que leur identité propre, leur culture propre, leur lenteur, leur silence, leur manière de voir le monde n'étaient pas pris en compte par la mère France, la mère patrie qui, avec tous les gouvernements qui se sont succédés, toutes les politiques culturelles qui ont été mises en place depuis André Malraux jusqu'à aujourd'hui, a mis en place une machine étatique à broyer et à donner une seule vision de la culture. On est dans une dictature aussi de ce point de vue-là. Et il suffit d'aller dans la marge pour s'en rendre compte. Certains en province pourront dire ce que je dis, en province métropolitaine, je parle de villes comme Biarritz, Limoges ou autres, par rapport à Paris. Il y a cette volonté de vouloir donner une ligne. Alors, dans le cinéma, c'est peut-être la rapidité, c'est peut-être les effets de caméra, et personne ne peut plus supporter un film de Tarkovsky au cinéma aujourd'hui. Et bien, au théâtre, je suis désolé, en tout cas, je parle de la France, c'est la même chose. Il y a une manière de faire du théâtre qui est imposée, qui est... et quand vous allez dans les ministères, dans les bureaux, quand vous allez, on vous le dit à mot couvert ou parfois à mot découvert, mais tout ce que les artistes de cette périphérie essayent de présenter n'est jamais pris en compte. Et on essaie à chaque fois de leur dire, voilà, on va vous envoyer des formateurs, on va vous envoyer des gens qui vont vous montrer ce que c'est que la bonne façon de faire. Si vous voulez être diffusé, il y a quand même 850 espaces de diffusion théâtrale en France métropolitaine. C'est énorme, c'est unique au monde, je crois. Et je vous mets au défi, dans ces 10 dernières années, de voir des productions martiniquaises, guadeloupéennes, et je dis africaines aussi, si ce n'est effectivement les francophonies de Limoges, mais à ces quelques exceptions près. Et d'ailleurs, lorsque un lieu comme les francophonies de Limoges vont montrer ces théâtres-là, ils vont tout de suite être catalogués par des bien-pensants comme ghetto, comme théâtre qui ne nous concerne pas, et les médias, une fois de plus, font leur choix en disant « bon, ça c'est du théâtre, ça n'en est pas ». Donc, on est dans cette réalité-là. Et ce que je suis très très troublé, hein, vraiment, par ce que vous avez dit, parce que je le touche du doigt avec une acuité incroyable. J'ai parlé beaucoup d'individualisme au départ, et je continue à en parler en disant que tout ce que j'ai pu faire personnellement, partout où je suis passé, en essayant de développer et de permettre à ces, en tout cas dans mon domaine, le théâtre, à ces arts-là, à ces cultures théâtrales-là, d'exister et peut-être d'être montré ou diffusé, c'est aussi une démarche égoïste. C'est d'abord une démarche superstitieuse de penser que tout le succès qui m'arrive à moi, si je ne le partage pas, il va disparaître. Alors, on est encore dans une démarche égoïste. Mais au-delà de ça, c'est... quelqu'un parlait tout à l'heure de Superman et de puissance, et j'ai dit oui, c'est vrai que ce que j'ai constaté, c'est peut-être triste à dire, mais c'est que le succès qui m'arrive à moi permet, me donne une puissance, un pouvoir que je peux mettre à mon service, comme je peux décider de mettre au service des autres, pour des raisons diverses. Moi, j'ai choisi de le mettre au service des autres. Et je me suis rendu compte que, voilà, parce qu'il y a la caution José Pria sur certaines propositions, d'un seul coup, des portes s'ouvrent. Et j'en ai pour exemple, Semaine de la Caraïbe à la Comédie Française, que l'association que j'ai créée avec mon épouse, Écriture théâtrale contemporaine en Caraïbe, pour justement dire au reste du monde, et à la France en particulier, France métropolitaine, que oui, la Martinique, la Guadeloupe, Haïti, et puis tout le bassin caribéen ont des choses à dire au monde dans leur théâtre, qui n'est pas celui qu'on voit forcément dans les lieux homologués, mais qui existe. Et jusqu'à ce que j'arrive avec cette évidence-là en disant, ce sont les auteurs que nous avons lu dans notre comité de lecture et qu'on va présenter, qu'on va proposer. Alors, il y a des espoirs, il y a des lignes d'espoir, mais les lignes d'espoir, je ne crois pas qu'elles passent par l'État, je crois qu'elles passent par les individus. Moi, j'ai rencontré un homme qui, au sein de l'institution la plus conventionnelle qui soit, est un Nietzschéen grandeur nature, qui est l'administrateur de la Comédie Française, Marcel Bozonnet, à qui j'ai dit, voilà, je vais t'amener, est-ce que tu nous ouvres la Comédie Française pour qu'on amène ces écritures de la marge, qu'on n'entend pas sur les scènes françaises, pour les faire entendre au firmament de l'institution. Et il a dit oui. Et on a fait une semaine de lecture à la Comédie Française, on a fait entendre ces paroles différentes, on a permis que l'un des plus grands poètes contemporains qui a eu le prix Nobel de littérature et qui n'est pas connu en France parce que ça n'entre pas dans les canons d'Eric Walcott se soit fait commandeur des Arts et des Lettres, comment la République essaie de récupérer. Mais c'est pas grave, on en était heureux et que tous les soirs, pendant une semaine, dans un Paris où on se plaint que les gens ne vont plus au théâtre, les gens sont happés aussi par le zapping théâtral, les pièces qui font 15 jours sont sorties de l'affiche parce que ça n'intéresse plus ou parce que les médias en ont dit du mal. Et bien pendant une semaine, ces paroles de la marge ont rempli le studio théâtre de la Comédie Française à leur grand étonnement. Et Marcel disait très justement, si nous étions plus audacieux, si nous osions un peu plus. Donc je dis qu'il y a des espaces, des manières de croire que ça peut changer. Et ici aussi, on a un lieu de croire que ça peut changer, puisque quand je suis venu, alors ma notoriété peut aider en métropole, elle n'était pas forcément opérationnelle ici au Québec où je n'étais pas connu, mais j'ai rencontré, comme je dis, des gens intelligents, j'ai rencontré Marie-Hélène, j'ai rencontré Diane Léjour qui m'ont dit, les écritures de la Caraïbe, oui, bien sûr. Donc on est là, on va faire entendre ces paroles-là, de la marge. Donc j'ai envie de vous dire, non, ne baissez pas les bras, venez nous voir en Martinique, on va faire entendre vos paroles.
Merci beaucoup, José Pia. Michel Weiss. Oui, et puis il me reste un intervenant, s'il est dans la salle, qui avait prévenu de sa présence et qui a vu travailler, qui est Gilbert David. Est-ce qu'il est là? Il n'est pas là.
Ok. Je voudrais faire le lien entre certaines choses que j'ai entendues tout à l'heure.
C'est bien ça, quelqu'un qui a l'esprit de synthèse.
Je ne sais pas si ce sera une synthèse à laquelle tout le monde conviendra. Je suis rédacteur en chef de la Revue Jeu. Et on a beaucoup parlé des médias. Et je ne sais pas si on peut dire que la Revue Jeu fait partie des médias. Enfin, nous nous sentons plus ou moins comme faisant partie du groupe des médias. Nous sommes plutôt des gens qui accompagnons le théâtre, comme le disait tout à l'heure monsieur au bout de la table, Denis Côté, voilà, il a fait de la critique pendant plusieurs années, et puis ensuite il a commencé à faire de la réalisation de cinéma. Alors nous, à Jeu, depuis 29 ans que la revue existe, il y a beaucoup de gens qui sont passés par la revue, qui ont écrit et qui ont fait du théâtre, comme metteur en scène, ou comme dramaturge, avant ou après, bref, qui ont passé un certain nombre d'années à la revue. Actuellement, nous sommes 8 membres de la rédaction et nous avons un bassin de collaborateurs d'une trentaine de personnes. Alors, ce qui nous anime, c'est évidemment le désir du théâtre. Et je crois que là, je peux rejoindre pas mal de choses qui ont été dites auparavant. C'est-à-dire que toutes les deux semaines, nous nous rencontrons pour discuter des pièces que nous voyons. Alors, c'est très exigeant. Et nous en parlons beaucoup, nous en parlons avec beaucoup de ferveur, beaucoup de passion. Nous écrivons sur les pièces qui nous attirent, et je crois que ce qui nous attire beaucoup, c'est le théâtre des marges, c'est le théâtre qui n'est pas sous les grandes marquises, enfin qui n'est pas reconnu par l'institution, même si nous ne tournons pas le dos à l'institution. Mais nous avons cette curiosité du théâtre qui essaie toujours de se réinventer comme théâtre. Et nous faisons appel à notre bassin de collaborateurs, nous leur commandons des articles, ou alors les collaborateurs nous en proposent, et quand ça coïncide avec notre désir, eh bien, nous leur donnons le feu vert. Parce qu'il nous est impossible de parler de tout. Et là, je rejoins un petit peu ce qu'avait dit un peu plus tôt M. Caron, qui est ici présent, puisqu'il a cité deux fois la revue Jeu. Bon. En disant d'abord que dans la généalogie de Jeu, son nom brillait par son absence. Je pense qu'il fait référence à l'arbre du théâtre québécois, si je ne me trompe pas. Nous avons publié une affiche il y a 5 ans, dans laquelle on essaie de représenter le théâtre québécois sous la forme d'un arbre. Alors on y a mis 75 comédiens, on y a mis des metteurs en scène, des auteurs, des pièces de théâtre, des compagnies, bref. On a essayé de faire tenir une certaine idée du théâtre québécois dans cet arbre, et il est très possible, oui, effectivement, que votre nom ne soit pas dans cet arbre. Mais encore une fois, nous ne pouvons pas refléter tout. Nous avons renoncé, il y a déjà plusieurs années, à être le miroir de tout le théâtre québécois. Il y a 29 ans, quand la revue a été fondée, on pouvait avoir cette prétention. Et on l'a, je pense qu'on l'a maintenue pendant quelques années, puis ensuite on s'est dit non, c'est impossible. On ne peut pas rendre compte de tout, on va vraiment carburer au désir, à ce qui nous appelle, ce qui nous attire. Par ailleurs, Jean-François Caron, vous avez dit aussi, à un moment donné, que dans un article de juin, un chroniqueur avait, de façon erronée, trouvé des différences entre la pièce de vous, aux hommes de bonne volonté, dans une conversation avec quelqu'un de
juin. Il n'y a justement pas eu d'article.
Ah,
c'est-à-dire que
d'accord.
C'est ce que juste...
On va faire ce cours quand même, hein.
D'accord.
Bon,
ouais.
Oui, bon, ben c'est ça, non, parce que j'allais dire que s'il y a une erreur de fait dans un article de jeu, alors ça, nous sommes tout prêts à
répondre
et à corriger, c'est évident. Mais si c'est dans une conversation, si quelqu'un pensait qu'il y avait eu des différences entre la pièce, la mise en scène de votre pièce telle qu'elle a été vue à Montréal, et puis le texte original, mais là, évidemment, tout le monde peut se tromper d'une conversation.
Un petit contexte, bref. On ne connaît même pas. Non, c'est juste que c'est un truc très, très particulier. Très, très particulier. Je comprends que mon nom ne soit pas dans l'arbre généalogique. C'est pas tantôt, il était dit par rapport à moi, un désir de reconnaissance. J'en ai une reconnaissance. Quand je mets le pied en France, le milieu du théâtre vient me voir. J'en ai une reconnaissance. J'en manque pas vraiment. C'est vrai que ça manque ici. C'est vrai que c'est difficile. Il reste que j'ai quand même écrit une pièce qui a été complètement, qui a pas été, je l'ai dit, qui n'a pas été créée ici, bien qu'il y ait eu une création, ce que j'appelle un semblant de création. Cette même pièce a été créée 2 années plus tard en France, à Paris, a tourné pendant 2 ans. Tout le monde dans le milieu le sait. Même vous, tout le monde le sait. Hein? Ils sont venus, ils ont terminé leur tournée française, au Cap-Sous, là où la pièce avait été très mal créée, à mon avis. Ils l'ont terminé ici, ça s'est très 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 bien passé. Bon, tout le monde sait ça. Il y avait là, à mon sens, il y a toujours à mon sens, lieu de parler de quelque chose. Hein? Parce que voilà, non pas une pièce comme toutes les autres qui fait son chemin. Non, voilà une pièce qui fait un chemin absolument atypique. Et ce que j'ai dit tout à l'heure, je le redis, que la revue, une revue spécialisée comme la revue Jeu, par exemple, ben, passait complètement à côté de ça. Et j'ai eu une conversation avec quelqu'un de revue Jeu qui, au sortir de la première de la production française au Cap-Sous, m'a dit, mais j'ai vu la création ici il y a 2 ou 3 ans, c'est pas le même texte. Et j'ai dit, oui, c'est exactement le même texte. Alors, quelque part, j'attendais à ce que ça se... Parce qu'il y avait pour moi, il y a une aberration, c'est le même texte. Et il y a quelque chose qui est très mal traité ici, au niveau de la création, et très bien traité là-bas. Voilà, c'est...
Je vais vous présenter mutuellement. Alors, Michel Laïs, Jean-François Caron.
On se croise dans quelques librairies.
Et je vais vous inviter à continuer votre passionnante discussion derrière. Merci. Michel Laïs, sans vouloir censurer personne, on s'entend que c'est peut-être un peu pointu. Alors, est-ce que dans la salle, le dernier sujet qui a été soulevé par M. Siouik Durand est vraiment tout l'enjeu de la diversité culturelle, même sur nos propres scènes? Et je me demandais si, avant de se quitter, il y avait quelqu'un qui voulait faire un dernier... témoignage là-dessus ou réagir à ce que vous avez entendu. Êtes-vous heureux? Est-ce que vous avez passé un bel après-midi? Oui, au fond.
Moi, je vais, puisqu'on parle de dernier commentaire, moi, je voulais vous remercier pour avoir pris un temps comme ça, parce que personnellement, je suis comédienne et je vis tout à fait un peu tout ce qui a été dit. Je suis dans une période en ce moment de vide. De remise en question totale. C'est la première fois de ma vie. Vous parlez aux plus jeunes, ils se demandent s'il y a de l'espoir. Moi, je pense que oui, dans le sens que je vérifie au cours de ma vie que c'est la vie d'artiste, on ne la choisit pas, comme on le dit. C'est une vie inhérente à soi qui existe et on a la chance qu'elle existe en soi. Quand on l'a, c'est un cadeau, malgré les difficultés au cours de la vie. Et puis, quand vous avez parlé d'être versatile, moi j'ai vécu, on ne veut plus de versatilité, j'ai fait tous les formations de tous les types de théâtre qu'on peut connaître, de l'expérimental flyer à l'image, télévision, téléroman, etc. La voix, la narration, le doublage, etc. Et puis, et à travers tout ça, j'ai dû élever un enfant et une serveuse. Et, donc, il y a une notion de temps aussi qui est très pénible, parce que comme quelqu'un a soulevé tout à l'heure, les professeurs, on a besoin de temps aussi. La création, c'est un cycle, c'est un processus. Et ça, dans notre société, bien, on le sait, ça n'existe pas pour l'artiste. Des fois donné, la société ne donne pas la vie à l'artiste. C'est-à-dire qu'on doit justement combattre pour la faire, cette vie-là.
Et quand vous voyez de l'espoir pour les jeunes, ce serait quoi?
L'espoir, c'est que j'ai beau essayer de me remettre en question et me demander si je devrais faire autre chose, ça, c'est impossible. Alors, c'est l'espoir, c'est que ça vit par soi-même. C'est que la vie, l'art, c'est comme la vie. Et puis ça pousse n'importe où. Alors ça reste en vivant en nous, même si on pense qu'on n'en peut plus. Moi, comme je dis, j'en ai besoin d'épuisement. Mais je pense que ça ne lâche pas. Alors je pense que je vais trouver. Je n'ai pas de réponse en ce moment. Mais que c'est ça l'espoir. C'est la force. C'est la vie.
Et le souffle.
Que je vous remercie énormément parce que moi, dans ce que je vis, là, ça vient de me donner un second souffle, que des gens se rassemblent pour partager et puis qu'on ait un peu le même langage. C'est-à-dire que j'ai reconnu tellement de choses que je voulais dire à moi-même dans tout ce qui a été dit. Alors, pour moi, c'est un cadeau que vous venez de me faire et qu'on se fait. C'est vraiment pas pour rien là, ce que vous faites là. C'est pas du sabotage.
Merci beaucoup et je pense qu'on en est bien conscient dans cette salle qu'on a passé un moment qui nous stimule, qui stimule notre réflexion, qui stimule nos engagements à l'occasion, qui stimule notre indignation à l'occasion. Je vous ai vu tout à l'heure, Céline, vous aviez envie de réagir. Est-ce que vous voulez le faire avant qu'on parte? C'est terminé. Alors, en votre nom, je vais remercier nos quatre panélistes de cet après-midi, Denis Côté, Linda Gaudreau, José Pia et Martin Fouché. Excuse-moi, Martin. Ça m'a fait plaisir d'être ici avec vous. Merci de votre attention, de votre qualité d'attention, ça s'entendait. Et je sais que Marie-Hélène voulait nous dire un mot.
Je veux en fait vous remercier tous d'avoir été présents. Je veux remercier tous les panélistes de cette journée, tous les artistes qui ont présenté, qui ont préparé, qui ont présenté des interventions très généreusement et très honnêtement. C'est un travail colossal qui a été accompli par tout le monde pour que cette journée soit possible. Je veux remercier aussi, bien sûr, et tout particulièrement Stéphane Lépine, avec qui nous avons développé, élaboré et développé cette rencontre. Je veux remercier Karen Graham, qui a assuré la logistique de l'événement. Karen, qui est adjointe à la programmation au festival. Et je veux, bien sûr, avant, je vais vous inviter à nous rejoindre à la Cinémathèque, parce qu'à 4 heures, il y a un pot. On vous invite, vous êtes tous invités à venir prendre l'apéro avec nous, on se retrouve là-bas, avec les gens des compagnies, les différentes compagnies qui participent au festival, les invités qui nous visitent de l'étranger. Alors, vous êtes les bienvenus. Et finalement, je voulais garder ça pour la fin, parce que je sais qu'après, je ne pourrais plus dire un seul mot. Je voulais remercier, bien sûr, Ariane Aymon, qui a très brillamment tenu cette journée, du matin au soir. Merci infiniment, Ariane.